Transistor.
À l'école, l'élève doit être absolument protégé.
Transistor. Web.
Autrement dit, des handicaps qui ne se lisent pas sur le visage, qui ne se devinent pas au premier regard. Et c'est justement de ces handicaps-là dont on va parler. Cet épisode n'étant pas enregistré en studio, le son sera sans doute de moins bonne qualité, et j'espère que vous apprécierez quand même ce moment d'échange. Aujourd'hui, on accueille Daniel, étudiant en création digitale à Paris, et qui a la maladie de Crohn. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Alors, selon l'INSERM, qui est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, la maladie de Crohn se caractérise par une inflammation de la paroi d'une partie du tube digestif due à une dérégulation du système immunitaire intestinal. Cette inflammation incontrôlée est responsable de lésions tissulaires et de la chronicité de la maladie. Son origine semble résulter de la combinaison complexe des facteurs environnementaux associés à une susceptibilité génétique du patient et à la réactivité particulière de son système immunitaire. Donc là, ce que je viens de dire, c'est la définition scientifique. Comment tu décrirais, toi, la maladie de Crohn avec tes mots?
Alors, avec mes mots, je dirais simplement que la maladie de Crohn, c'est une maladie qui fait que... qui a des crises. Ces crises, elles vont être générées par exemple, des moments de stress. C'est les moments où je vais me sentir le plus mal. Sinon, il va y avoir des crises autres, mais qui n'ont pas de rapport direct avec... quelque chose d'extérieur, et je vais juste avoir d'énormes maux de ventre, la nausée, et c'est quelque chose d'assez insoutenable. Enfin, c'était, mais maintenant que je suis sous traitement, c'est un peu mieux, mais voilà.
On parlera du traitement après. Une question que je pose à chaque épisode, c'est comment tu te définis? Est-ce que le mot de malade te correspond? Est-ce que tu préfères le mot handicapé? Le mot, je sais pas, de trouble, de différence? Quel mot pourrait le plus te correspondre?
Je dirais que malade, ça me correspondrait mieux. J'ai jamais vraiment vu ça comme un handicap. Dans ma tête, c'était plus une maladie. Et j'essayais de faire avec. Mais ouais, c'est plus une maladie. Enfin, je me verrais plus comme un malade.
Et je voulais un peu revenir sur toute la partie diagnostic, parce que c'est un truc qui m'intéresse. À quel âge ça a été diagnostiqué?
Alors, Crohn, ça a été diagnostiqué il y a à peu près 6-7 ans. Peut-être même un petit peu plus, mais ouais, ça a été diagnostiqué à ce moment-là, mais j'avais déjà des douleurs et des symptômes avant, mais c'est à ce moment-là que ça a vraiment été diagnostiqué et qu'on a pu mettre un nom sur ce que j'avais, et c'est quelque chose qui a un peu fait du bien, parce que bah, quand t'es pas bien et tu sais pas ce que c'est, tu commences à te poser des questions un peu.
Donc t'as l'impression que le diagnostic et le fait de pouvoir poser un nom, ça t'a soulagé?
Très clairement, parce que avant d'avoir un nom sur ça, il y avait beaucoup de médecins qui me disaient que mes douleurs, que mes problèmes, tout ça était psychologique. Du fait que je sois très maigre, on m'a dit que non, j'avais rien du tout, j'étais sûrement anorexique, mais sans faire vraiment de bilan, sans regarder vraiment ce qui allait pas et ce que je leur disais. Enfin, c'était vraiment ok, non, mais on voit que t'es maigre, y a pas de problème, bon, c'est dans ta tête. Arrête de te croire malade ou de croire que t'as quelque chose.
Là, tu parles du fait que les médecins ont potentiellement fait allusion au fait que tu sois peut-être anorexique. Est-ce qu'il y a des diagnostics comme ça qui ont été posés avant d'enfin parvenir au diagnostic de la maladie de Crohn?
Alors, il y a un médecin à la Maison Solène qui m'a dit une fois que j'étais anorexique. Chose que je n'ai pas trop compris parce qu'il me disait non, t'es nausée, c'est toi qui l'es créé, c'est toi qui ne veux pas manger. Et faut savoir que je suis quelqu'un qui adore manger et j'ai la phobie de vomir. Donc je ne me voyais pas me dire attends, tu me dis que c'est moi qui me fais exprès d'avoir envie de vomir pour ne pas manger ou pour arrêter de manger alors que c'est quelque chose que j'adore. Donc. C'était un peu contradictoire dans ma tête et je me posais un peu la question de voir si je l'étais ou pas, mais au fond de moi j'étais en mode genre non, c'est bizarre. Et on m'a aussi diagnostiqué avant des maladies aussi, par exemple, on m'avait aussi du coup, trouvé une gastrite à Helicobacter pylori, qui est aussi du coup des problèmes gastriques. Et tout ce qui n'allait pas chez moi, ça a toujours eu un lien avec mon estomac, mon tube digestif. Hein. C'était vraiment le côté digestif chez moi qui a toujours pris dès que j'avais quelque chose qui n'allait pas, que ce soit émotif ou physique. Par exemple, si je vais avoir un rhume et que je vais être un peu malade, je vais avoir mal au ventre à côté. Et ça a toujours un peu été le cas, que je me souvienne en tout cas.
Et parce que du coup, pour le coup, la gastrite, t'en avais vraiment une? Ou pareil, c'est un diagnostic qui correspondait pas à ce que t'avais?
Alors là, j'en avais vraiment une, étant donné qu'on m'a fait une fibroscopie et qu'on m'a fait aussi des prélèvements. Donc on a pu vraiment voir ce qui allait pas et la bactérie. Je crois que c'était des bactéries, mais j'avoue que je ne suis pas très calé dans le sujet. Mais enfin, je crois qu'il y avait une bactérie qui était l'Helicobacter pylori qui était là. Donc on a pu la traiter et ensuite c'est allé mieux. Mais à l'époque, je pensais que c'était que ça, qu'une gastrite. Et on a appris après que voilà, il y avait quelque chose d'autre derrière.
Et justement par rapport au diagnostic, donc tu parles de la gastrite qu'il y aurait eu avant, mais concrètement, quels ont été les signes qui t'ont fait dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et qu'il fallait consulter, qu'il fallait trouver un diagnostic?
Alors, c'était beaucoup le fait d'avoir des nausées à répétition à peu près presque tous les jours sur certaines périodes et des maux de ventre assez incessants. Mais vraiment, le côté nausée, c'est ce qui a le plus posé problème, je dirais, étant donné que j'ai la phobie de vomir et que c'était quelque chose que j'avais très très peur. Et je me suis dit, c'est pas normal d'avoir la nausée tous les matins. Des fois, si je mange un tout petit peu trop, j'ai aussi la nausée. Et c'est comme si, au bout d'une certaine fourchetée, je ne peux plus manger. Et si je mange plus, je vais vomir. C'est, je suis en mode, c'est comme si j'atteins une limite et je vais me sentir hyper mal. Et c'était à ce moment-là où je me suis dit, c'est bizarre d'avoir des choses comme ça et d'être tout le temps mal en fait. Et à un point où ça m'a fait. Même au niveau de mes études, quelques problèmes. Et ouais, mais oui, c'est vraiment ce côté nausée à répétition tous les jours, tous les jours, tous les jours qui m'a dit qu'il y avait un problème.
À ce moment-là, est-ce que tu en parles à tes parents, à tes proches? Est-ce que eux aussi s'alarment avec ces différents signes?
Alors, mes parents, je leur en ai toujours parlé de mes douleurs, étant donné que ma mère m'a toujours emmené chez des médecins à droite, à gauche, parce que je disais toujours que je me sentais mal. Et que j'étais un petit peu le fils unique, le petit protégé. J'étais très chouchouté, si on peut dire, un peu trop même. Et ils me faisaient toujours passer en premier, mais du coup, je suis allé voir des médecins, des psys, un peu tout à droite à gauche. Et les premiers médecins qu'on a vus, justement, c'est ceux qui nous ont dit que non, c'est rien. Mais je continuais de leur dire à mes parents que non, en fait, ça va toujours pas. Enfin, quand la gastrite s'est résorbée, etc., ça allait mieux. Mais après un certain moment, j'étais en mode, genre, il y a quand même quelque chose derrière. Et ça s'est intensifié ensuite avec. Enfin, ce qui a vraiment intensifié ces choses-là, ça a été le décès de ma tante et de ma grand-mère qui, en gros, émotionnellement, ça a été un gros choc et j'ai rien laissé ressentir. Et du coup, comme je te l'ai dit avant, dès qu'il y avait quelque chose émotionnel, tout passe par vraiment l'intestin, l'estomac, etc. chez moi. Et c'est vraiment là où ça a commencé à être ressenti, mais de façon plus intense. Et oui, et vraiment, j'ai toujours fait part de ces problèmes à mes parents. Et ils ont toujours été là pour m'accompagner, je dirais.
Et donc, du coup, de ce que je comprends, la maladie de Crohn, en tout cas la manière que toi tu as de la vivre, c'est à la fois des douleurs qui sont là au quotidien, qui sont voilà, peut-être enfin, liées à des choses génétiques, à l'environnement, à ce que tu manges, etc. Tu me dis si je me trompe. Mais du coup, il y a aussi tout le côté émotionnel et tout le. Enfin, potentiellement l'effet du stress, etc., qui entre en compte.
Exactement, le stress, c'est, je dirais même plus que le côté alimentaire, parce que alimentaire, c'est quelque chose où tu vas prendre l'habitude de t'alimenter de cette façon. Tu vas essayer de manger moins gras, moins sucré. J'avoue, c'est des choses que je fais pas régulièrement et où je fais pas hyper attention parce que maintenant je suis sous traitement et ça va mieux. Donc, juste, je suis pas quelqu'un qui va abuser de choses hyper grasses et bon. Mais ouais, c'est plus émotionnel. Dès que je vais être stressé, je vais me sentir mal, je vais avoir mal au ventre, que ça soit même d'un point de vue Bah ouais, c'est ça, bah, nausée, mal de ventre et aussi transit qui va être beaucoup impacté. Et ouais, c'est vraiment les, je dirais les trois points principaux de, enfin, que moi je vis en tout cas, plus au quotidien, mais à chaque crise un peu de stress et où je suis un peu plus tendu, si par exemple je vais avoir des examens ou un rendu ou quelque chose comme ça, c'est vraiment quelque chose d'assez régulier à ce moment-là.
Et je voulais juste revenir sur la fête, être un peu plus liée à ce que tu ressens, parce que tu parles beaucoup de nausées. Je ne sais pas si tout le monde en a vécu. Est-ce que tu pourrais essayer de décrire ce que c'est concrètement? Même s'il y a des gens parmi les personnes qui écoutent qui ont déjà vécu des nausées, c'est pas forcément la même chose de vivre juste une nausée comme ça, je sais pas, pour X ou Y raison, que d'en vivre à répétition. Enfin, est-ce que tu saurais décrire un peu?
Alors, les nausées que je vis, je dirais que c'est comme si bah justement tu venais de manger et tu avais tellement mangé que tu avais l'impression que ça allait déborder. Mais en même temps, des fois, tu as des reflux gastriques ou des choses comme ça qui vont vraiment te donner l'impression que ça te brûle. Mais c'est plus rare, mais ça va vraiment être cette impression que bah juste c'est en train de déborder, que tu peux vomir à chaque instant. Il y a même bah, des gènes un peu au niveau de la déglutition, mais ça c'était quand j'étais un peu plus jeune. J'avais tellement la nausée que j'arrivais même pas à déglutir ma salive. Des fois, j'étais là et je devais cracher tout le temps, entre guillemets, parce que j'arrivais pas à déglutir. Du coup, je m'essuyais sur mes manches, des choses comme ça. Mais c'était un peu spécial et j'ai jamais su expliquer ça. J'en ai pas vraiment parlé à des professionnels de ce problème et ça s'est un peu traité, enfin je dirais pas traité, mais c'est passé au fur et à mesure du temps où bah, en même temps j'ai commencé à voir des sophrologues, j'ai eu des psys, etc. Les psys, je dirais pas que c'est la chose qui m'a le plus aidé, c'est bah, vraiment plus mes proches, ma copine, mes amis, où j'apprenais à être plus à l'aise avec moi-même, avec ce que je ressentais, à mettre des mots sur mes émotions aussi, si jamais j'étais trop stressé par exemple pour aller au restaurant ou quoi que ce soit, et que je sentais que j'allais un peu paniquer, du coup j'avais pas profité, j'allais juste dire bah non, en fait je préfère pas y aller, je me sens pas trop, et mes amis étaient au courant de ce que j'avais et l'avaient totalement accepté, il n'y avait pas de, je dirais, de personnes qui étaient là à me pousser en mode genre ah oh, t'es sûr mais tu vas louper quelque chose, c'était en mode genre ah ok il n'y a pas de souci, on fera ça une autre fois, etc. Et mes parents au début c'était un peu plus compliqué parce que bah, il y avait du coup ce côté ah mais on va y aller avec tes amis, on va s'amuser. Ils me forçaient pas, mais ils étaient en mode genre ah t'es sûr tu veux pas venir, et j'avais un peu l'impression d'être bah, à la limite forcé. Et bon, à force, au fur et à mesure, ils ont compris vraiment que quand je disais que je pouvais pas, c'était que je pouvais pas. Mais au début c'était un petit peu plus compliqué qu'avec les amis, où vraiment j'arrivais à leur faire comprendre très facilement que quand c'était non, bah je suis désolé, mais je pouvais pas, quoi.
Pour revenir un peu sur le diagnostic, tu disais tout à l'heure que tu étais diagnostiqué il y a 6-7 ans, mais que ça avait commencé avant. Concrètement, ça a commencé quand? T'arrives à dater un peu
Alors, ça avait commencé à la fin du collège, en termes d'années, ça doit faire un peu plus d'une dizaine d'années, ouais, même une dizaine d'années, je dirais, où bah, c'était ce moment où justement je venais d'avoir mes gastrites et je devais être en quatrième, troisième par là. Je ne saurais plus redonner une date exacte, j'avoue que ces années-là me sont un peu vagues, mais ouais, c'était à ce moment-là où j'ai commencé vraiment à me sentir mal, et bah, je me rappelle bien surtout le côté lycée où justement ce mal-être qui n'avait pas de nom a créé un peu une phobie scolaire en passant par en fait, ça a commencé par juste j'ai la nausée. J'avais peur de vomir en même temps, donc je devais essayer toujours d'être à côté d'une fenêtre, à côté d'une porte, au cas où je me sentais pas mal pour pouvoir prendre l'air, pour pouvoir sortir, aller aux toilettes si jamais ça allait pas. Ça s'est transformé du coup en bah, un peu claustrophobie, parce que bah, j'avais toujours cette peur d'être enfermé, si jamais j'allais pas bien, il fallait que je puisse sortir. Ça s'est transformé en agoraphobie. Dès qu'il y avait du monde autour, bah, j'avais l'impression aussi d'être enfermé et que les gens allaient me juger, que imagine si tu vomis devant quelqu'un, qu'est-ce que la personne va penser de toi? Alors que, à vrai dire, ça m'est arrivé, ça a dû m'arriver deux fois de vomir devant quelqu'un, et c'est pas la fin du monde, quoi. Mais j'ai toujours eu cette peur de qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Donc ouais, c'est C'était un peu difficile au lycée. Et en première, c'est à ce moment-là où c'est devenu le plus dur que j'ai commencé à vraiment me sentir de plus en plus mal. On n'avait pas encore trouvé ce que c'était. Et bah, j'ai fait une dépression, phobie scolaire. J'étais allé au lycée peut-être un trimestre et demi. Et vraiment, je passais la moitié des journées chez moi. Je me souviens que... Une fois où j'avais passé une semaine entière sans louper de cours, toute la classe m'avait applaudi et enfin tout le monde savait ce que j'avais, c'était su ce que j'avais. Et du coup, il n'y avait pas de jugement de ah pourquoi il est pas là, ah c'est trop bizarre, ou quoi que ce soit. Et les personnes étaient relativement bienveillantes, et je sais que c'est pas toujours le cas, et j'ai eu quand même pas mal de chance là-dessus. Donc ouais, mais ça m'a quand même fait rater une année, et depuis bah, cette année. J'ai jamais vraiment repris autant les études que... Enfin, je dirais que mon niveau n'est pas resté le même que celui que j'avais avant. Avant, j'étais un assez bon élève qui se concentrait assez facilement, j'avais pas trop besoin de travailler, etc. Et depuis ce moment-là, je me suis un peu relâché parce que bah, j'ai quand même passé un an vraiment sans... Même si c'était pas volontaire de rien faire, etc., bah, je me suis déshabitué, si on peut dire, à vraiment me donner à fond. Et maintenant, je fais le strict minimum et... Oui, je suis passé un peu de bon élève à moyen, je dirais. Mais voilà, c'est un peu le ressenti que ça a eu pendant mes études au lycée, en tout cas.
Mais c'est intéressant parce que tu dis que les gens étaient quand même plutôt bienveillants et en même temps tu parles quand même d'agoraphobie. Tu dis j'ai toujours eu peur de ce que les gens vont penser de moi. Est-ce que tu as l'impression que ça a pu quand même t'exclure ou t'isoler à un moment, même si genre t'es bienveillant, mais même de toi-même, tu vois, genre tu t'es auto-exclu ou auto-isolé?
Alors totalement, il y a des moments où bah, il y avait plein de potes qui faisaient des soirées, des trucs, ils allaient au cinéma. Le cinéma, c'était ma plus grosse phobie. T'es enfermé dans une salle avec des gens à droite, à gauche, si tu veux sortir, faut passer devant des gens. C'était des trucs j'avais fait une fois et j'avais fait des crises de panique et j'ai dû repartir parce que j'avais pas réussi. Mais ouais, ça m'a... Enfin, je m'isolais des gens. Clairement, j'osais plus aller dans des centres commerciaux, même alors que bah, tu peux dire, bois, c'est grand, les gens sont pas collés, etc. J'en étais incapable. Je faisais tout pour ne pas aller, enfin, presque ne pas sortir de chez moi, quoi. Quand j'étais à l'extérieur, encore ça allait parce que bah, il y avait ce côté, bah, il n'y a pas grand monde. J'ai habité dans une petite ville, c'était pas genre Paris, les rues étaient pas blindées, etc. Mais ouais, clairement, les soirées, les sorties, même juste entre potes, à droite, à gauche, c'était quelque chose que j'ai pas trop vécu du coup au lycée. Bah, j'ai limite plus vécu au collège alors que j'étais bien plus jeune. Mais ouais, au lycée, je dirais que ouais, à partir de la première, ça a été vraiment compliqué.
Et du coup, je me demandais, tu dis que les gens de ta classe étaient tous au courant, enfin tous étaient tout au courant, mais comment ça se passe? Est-ce que tu en parles aux gens de ta classe, à tes profs, etc., dès que tu as le diagnostic? Est-ce que c'est pareil pour tes amis? Enfin, comment tu gères ce rapport à la parole?
Alors, j'en ai pas vraiment parlé aux gens de ma classe. C'était plutôt, j'étais un peu pote avec tout le monde et j'en parlais à une personne, qui en parlait à une autre. Enfin, ça peut faire un effet boule de neige, je dirais. Et justement, bah, avec le côté administratif, bah, j'étais jamais présent. Les gens étaient tout le temps au courant que j'avais des absences ou autres. Donc, bah, eux, ils l'ont appris dès que j'ai eu mon symptôme. Enfin, dès que j'ai eu mon symptôme, non, dès que j'ai eu mon diagnostic, exactement. Et je leur ai dit, histoire que bah, vraiment ils comprennent pourquoi j'étais absent et ce que j'avais aussi, parce que c'était des personnes qui s'occupaient très bien de moi. Dès que j'allais pas bien, j'allais les voir. Des fois, ils géraient mes crises de panique, etc. Enfin, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir pu avoir des personnes autour de moi, que ce soit bah, vraiment bah, les élèves de ma classe ou l'équipe enseignante et les pions, etc., qui étaient vraiment très. Très à l'écoute et qui me jugeait pas et qui était pas en mode genre ouais tu veux sécher ou quoi que ce soit, enfin vraiment bon, en même temps vu le nombre de fois où j'étais pas là, bon je pense qu'ils se doutaient que c'était pas pour sécher sinon ça serait un peu bizarre, mais oui j'en ai bah, tout de suite parlé à du coup ouais, l'équipe enseignante et oui et mes potes, mais sinon la classe ouais comme j'ai dit c'était effet boule de neige et qui du coup tout le monde a bien compris et personne n'était en mode genre ah, c'est chelou
Et ta famille, comment elle le vit quand tu leur annonces, tes parents, mais j'imagine que c'était peut-être tes grands-parents ou tes cousins, etc. Enfin, comment ils le vivent?
Alors, bah, ma mère, elle l'a appris en même temps que moi, étant donné qu'elle était en consultation avec moi à ce moment-là. En fait, c'est suite à des examens, une coloscopie, que on se rend compte du coup, parce que bah, avant tout le monde était en mode, comme je le disais, non, c'est pas ça. Là, c'est la première fois que quelqu'un se dit, bah, on va faire un examen pour vérifier juste. Et c'est à partir de cet examen qu'ils se sont dit, bon, bah oui, on a vu des choses, et effectivement, il y a un problème, et ensuite, on m'a donné le traitement, etc. On a fait des tests, mais oui, bah, mes parents, eux, ils l'ont su tout de suite, et ils l'ont. Assez... En fait, ça leur a d'un côté fait peur parce que j'ai une autre personne de ma famille qui a la maladie de Crohn, mais bien plus poussée, qui doit aller se faire faire des injections tous les mois à l'hôpital parce qu'aucun traitement ne lui convient et elle a dû se faire opérer, etc. assez, enfin, quelques fois. Et les autres personnes qui on va en parler, que ce soit tante, oncle, grands-parents, connaissent pas forcément la maladie. Du coup. Ils sont plus, je dirais pas dans l'incompréhension, mais ils sont plus dans la ah d'accord et qu'est-ce que c'est on a peu appris en même temps ce que c'était parce que bah moi aussi la maladie de Crohn, on m'a dit t'as Crohn, je suis en mode genre d'accord ok c'est un céréal c'est quoi je sais pas du tout et oui bah je trouve que c'est bah, c'est quelque chose qui est pas trop connu sauf si tu connais quelqu'un qui a Crohn sinon c'est pas comme d'autres maladies un peu plus répondu, je dirais.
Oui, et justement, tu parlais du fait que du coup, il y a un ou une médecin qui t'a fait faire cet examen. Parce qu'en gros, concrètement, il y a un examen qui permet de vérifier que c'est Crohn.
Je sais pas si c'est l'examen qui permet de vérifier, mais je sais que moi, bah, c'est grâce à bah, justement cet examen, la coloscopie, que on a pu voir bah, justement qu'il y avait des problèmes au niveau des intestins qui étaient. Bah comme, enfin en gros, la comparaison qu'on m'a fait, c'était, tu vois tes intestins, imagine des râpes à fromage, et dis-toi que bah, tes intestins, juste, il y a des nutriments qui vont passer dans ces trous, et que du coup, bah, tu vas absorber moins de choses, etc. Et voilà, bon, c'est la comparaison un peu enfantine et simplifiée qu'on m'a faite. Et du coup, bah, j'en ai conclu que, bah, avec une caméra, c'est sûr que ça permet de mieux voir qu'avec d'autres moyens, mais... Je sais pas si c'est l'examen de prédilection pour déceler la maladie ou s'il y en a d'autres. Mais voilà, moi en tout cas, c'est ce qui a permis de la découvrir.
Mais parce que du coup, quand t'as eu ta gastrite, il n'y a pas du tout eu de coloscopie qui a été faite. Enfin, comment ça se fait que cet examen a été fait que maintenant, ou en tout cas qu'ils ont capté que maintenant, enfin que à ce moment-là, que t'avais la maladie de Crohn?
Parce que pour la gastrite, on m'a fait une fibroscopie. Et du coup, ça a été au niveau de l'estomac, si je ne m'abuse, qui sont allés voir et faire des prélèvements. Et du coup, bah, il n'y a pas eu tout le côté intestinal qui est bah, du coup plus lié à Crohn.
Je me demandais aussi, tu parlais des personnes dans ta famille qui a Crohn, mais de manière non plus poussée, je te cite, parce que du coup, il y a différents stades, différents types, enfin, comment ça se passe?
Alors, bah, j'utilise le terme poussé parce que je dirais que moi, je suis un chanceux de Crohn, c'est-à-dire que je vais juste avoir des douleurs, je vais avoir envie de vomir, ça va être... quelque chose de supportable, je dirais, et surtout le traitement que j'ai marche. Donc il y a des personnes, les traitements qu'on va essayer de leur donner vont pas marcher, ils vont continuer à avoir des douleurs, ça va être de pire en pire. Je connais quelqu'un qui bah, a dû se faire enlever je sais pas combien de mètres d'intestin parce que juste bah, ça allait pas. Donc ouais, c'est pour ça que je dis que c'est des phases plus poussées parce que c'est des personnes qui ont besoin d'intervention plus sérieuse. Que moi qui ai juste un traitement et qui maintenant que c'est assez régulé et que je sais les raisons et les causes de mes crises, j'arrive à le gérer alors que bah, il y a des personnes, malgré la connaissance, il n'y a rien qui peut vraiment les calmer et ouais, il y a besoin d'avoir des interventions chirurgicales.
Et parce que du coup, est-ce que tu sais si ça peut empirer? Enfin, parce que là, certes, avec le traitement, on en parlera après, mais t'es à peu près stabilisé. Tu sais si ça peut, ouais, s'empirer?
Sincèrement, j'ai pas fait de recherche vraiment dessus. Juste les bases, c'est quelque chose que j'ai pas du tout recherché. Je sais pas du tout si ça peut s'empirer. J'espère que non, je vais pas te le cacher parce que j'avoue que là, déjà avec mon traitement, on essaie de le baisser petit à petit. Et il y a des phases où j'arrive à le baisser, il y a des phases où je vais essayer de baisser le traitement avec le spécialiste qui me suit et mon corps va pas l'accepter. Je vais commencer à avoir des nausées, etc. Et du coup, on remet celui d'avant. Enfin, les doses d'avant, Mais je ne sais pas si ça peut s'aggraver ou s'empirer. Enfin, je me dis potentiellement avec une alimentation très peu saine, mais c'est juste de la supputation. Il n'y a pas vraiment de recherche derrière que j'ai faite un peu poussée.
Ça pourrait être bien qu'on parle de la question du traitement. Déjà, est-ce que tu l'as eu tout de suite après ton diagnostic?
Alors je l'ai eu assez rapidement, je ne sais plus si c'était tout de suite, c'est parce que je crois qu'on avait aussi fait un prélèvement si je ne m'abuse, je dis peut-être n'importe quoi, mais je crois qu'il y avait eu un prélèvement et suite à ça il y avait eu un autre rendez-vous, mais c'était quand même relativement rapide et on a eu un traitement ouais, quand même assez vite, de la cortisone à assez haute dose. Et ouais, c'était quand même ouais, relativement rapide, je dirais.
Parce que du coup, aujourd'hui, ton traitement, c'est toujours que de la cortisone?
Alors là, j'ai plus du tout de cortisone. Maintenant, je suis sous immunosuppresseur. Et oui.
Et du coup, au début, donc, t'as la cortisone à haute dose. Est-ce que tu avais autre chose? Et à quel moment tu passes de la cortisone aux immunosuppresseurs?
Alors, c'est une très bonne question à laquelle je n'ai moi-même pas la réponse. J'avoue qu'à l'époque, mon traitement, j'étais en mode bon, bah, juste on m'a donné quelque chose et j'étais pas allé chercher plus loin. Mais si je me rappelle bien, la cortisone, c'était au niveau du ouais, bah, lycée, ça c'est certain, parce que je me rappelle que j'avais un pote qui en prenait aussi. Et ouais, ça a dû s'arrêter. J'ai dû en prendre pendant à peu près un an et demi, je pense, peut-être moins, peut-être même juste un an, et c'est assez flou, je t'avoue. Mais je crois que ouais, c'était quand même ouais, peut-être 1 ou 2 ans. Tu peux voir à quel point c'est flou, vu comment je m'en rappelle pas vraiment, mais ouais, on est quand même passé assez vite aux immunosuppresseurs.
Et du coup, est-ce que ça a été efficace tout de suite? Est-ce que très rapidement, ça a été un soulagement pour toi d'avoir ce traitement?
Alors, au début, non, parce qu'il fallait trouver la dose un peu, et au début, bah, c'était pas assez ce qu'on m'avait donné. Je me suis retrouvé très vite avec une dose de cheval, si on peut dire. J'étais vraiment avec des grosses doses de cortisone, et tout le monde était en mode genre, waouh, au vu de la dose, tu vas gonfler, machin, enfin, tout ce que tout le monde dit sur la cortisone, et ce qui m'est jamais arrivé, étant donné que je suis maigrichon, j'avoue, ça m'aurait un peu plu, mais bon, c'est un autre sujet. Mais ouais non, c'était pas direct efficace. Bah, il a fallu un peu trouver, mais c'était quand même relativement rapide, étant donné que bah, ça allait pas bien pendant 2-3 semaines. Et je disais, mais ça, ouais, bah, ça marche pas trop. Et t'es en mode, genre, ah, bon, on va revoir alors, machin. Et c'était bah, après aussi la chance que j'ai eue, je dirais, c'est que bah, ce médecin était aussi un proche d'une connaissance. Donc j'avais pas les délais d'attente qu'il y avait normalement pour avoir des rendez-vous et on pouvait le contacter assez facilement. Donc ouais, je dirais que j'ai un peu été privilégié à ce moment-là, quoi. Donc ça m'a un peu aidé pour trouver le bon traitement et avoir des rendez-vous à des moments assez avantageux, je dirais.
Et parce que du coup, tout à l'heure, on parlait du fait que tu as été soulagée d'avoir un nom qui soit posé, enfin un diagnostic. Là, on parle du soulagement du traitement. Est-ce que tu as l'impression qu'il y en a un des deux qui t'a plus aidé, pas forcément au quotidien, parce que j'imagine que le traitement était plus efficace, et t'as fait plus de bien sur le moment, mais est-ce que là, sur le long terme, avec le recul que tu as aujourd'hui, il y en a un des deux qui t'a plus aidé dans de l'acceptation ou...
Le nom, pouvoir mettre un nom, c'est vraiment bah, quelque chose qui m'a soulagé mais énormément parce que, bah, comme je l'ai dit, j'ai fait un peu du coup une phobie scolaire à force d'être bah, tout le temps chez moi, de ne pas avoir la force d'aller à l'école et de me confronter avec des personnes, avec une salle fermée, etc. Donc, ouais, j'avais un peu l'impression de devenir fou à l'époque et j'étais en mode mais qu'est-ce que j'ai ces douleurs, j'arrive pas à sortir. Enfin, J'étais juste en dépression, quoi, mais je comprenais pas et j'avais l'impression que j'étais bizarre, que rien n'allait chez moi. Et ouais, et le fait de dire, ah bah en fait, tout ça, de base, ça vient à cause de ça. T'es en mode genre, ah ouais, bah en fait, c'est pas moi le problème, il y avait vraiment quelque chose. Tous les gens qui disaient que c'était psychologique, etc., bah, ils avaient tort. Et ouais, enfin, j'ai vraiment pu un peu évacuer mon mal-être en disant, bah, il y a une raison, c'est à cause de ça, on va trouver un traitement et enfin, vraiment me dire, bah, là, c'est, je suis au plus bas, mais bah, vu que je suis au plus bas, je pourrais que remonter, quoi.
Et du coup, en plus du traitement, est-ce qu'au niveau scolaire, t'as eu des aménagements?
Alors, j'ai eu des aménagements, j'ai eu un tiers-temps, du coup, pour le bac, qui m'a été plutôt utile, étant donné que bah, j'étais assez stressé. Mon estomac était vraiment. Il était pas très content, j'avais la nausée, je me sentais pas très bien. Bon, après, j'ai réussi à me détendre pendant l'épreuve, mais ouais, j'ai perdu pas mal de temps. Ouais, du coup, j'ai eu un tiers-temps, que ce soit au moment de l'oral, j'avais plus de temps pour réviser, je crois. Je sais plus, c'était quoi? Ah, c'était il y a tellement longtemps que j'avoue que j'ai totalement un trou pour ce que c'était pour l'oral. Mais ouais, pour l'écrit, j'avais plus de temps. Vraiment, c'était quelque chose de pas mal. Et en plus, j'étais dans une salle où il y avait beaucoup moins d'élèves. On m'avait mis proche d'une fenêtre. Enfin, on avait tout fait pour que je passe l'examen de la façon la plus, enfin, la plus adaptée au mal-être que j'avais à ce moment-là. Histoire que si je devais sortir, je pouvais sortir, il n'y avait aucun problème. J'avais la fenêtre. Enfin, vraiment, ils avaient bien adapté ça vis-à-vis de mon problème.
Et parce que du coup, là tu parlais du tiers-temps pour le bac, mais c'est un moment très précis dans la scolarité. Là, que ce soit au lycée ou même après dans tes études, t'as l'impression que ça te. Même avec le traitement, que ça te freine pour, je sais pas, certains exercices, certains examens, des compétences ou des choses à faire.
Je dirais que sur certains oraux où je vais être très stressé, eh ben, je vais avoir la nausée par exemple, et à ces moments, je vais par exemple avoir un peu de mal à parler, je vais devoir respirer très fort pour essayer de me calmer, parce que je vais bah, justement avoir envie de vomir, je vais être en mode genre ok, il faut que je respire histoire que ça passe. Et ouais, bah, je me souviens que j'ai fait par exemple un oral où on était en binôme, mais j'ai dû partir et mon binôme a dû le terminer parce que j'avais juste trop envie de vomir et j'étais tellement stressé que bah, ça allait pas clairement. Mais c'est plus. Ouais, je dirais que c'est plus le côté oral où ça a vraiment un peu posé problème. Le côté, bah, tout ce qui était examen écrit ou autre, ça allait pas au début. Je me posais et quand j'arrivais à me mettre un peu dans le truc, bah, je pensais à autre chose. J'étais plus dans mon examen que. Enfin, j'arrêtais de penser que je me sentais mal parce que c'est un peu un cercle vicieux. Bah, tu te sens pas bien. Plus t'y penses et plus t'es en mode genre ah, ça veut pas passer, et bah oui, ça passe pas parce que t'es qu'en train de penser que tu te sens pas bien et que t'es stressé et ça s'arrête jamais. Donc, ouais, quand t'arrives vraiment à te concentrer sur autre chose, bah t'arrives à passer à autre chose. Et des fois, ça se passait même aussi comme ça dans les oraux où par exemple c'était des sujets que je kiffais à l'oral. Je commençais, j'étais stressé, j'avais envie de vomir, mais au bout de 5 minutes, j'étais en mode genre bon, bah en fait là c'est passé et ça va mieux parce que bah, je suis plus stressé, j'ai réussi à prendre mes repères un peu, mais ouais.
Et donc tout à l'heure, tu parlais du fait d'avoir vécu une dépression, d'avoir fait pas mal d'agoraphobie, etc. Tu disais aussi que tu as vu des psys, des sophrologues. Comment ça s'est passé? Parce que certes, tu as la maladie de Crohn qui cause un problème en soi, et du coup, tu as des solutions qui peuvent être mises en place par rapport à ça, mais tu as tout le reste. Enfin, je veux dire, les conséquences, là, sont quand même assez importantes de ce que tu racontes. Est-ce que enfin, le fait d'aller voir des psys, des sophrologues, ça a été mis en place tout de suite? Est-ce que c'est toi qui en as eu l'idée? Est-ce que c'est d'autres gens? Enfin, comment ça s'est passé?
Alors, ça a été mis en place, bah ouais, je dirais tout de suite, étant donné que ça a même été mis en place avant que j'ai ma maladie, étant donné que bah, quand j'ai commencé à faire bah, un peu ma phobie scolaire, bah, je suis allé voir un psy, mais après j'ai eu du coup un traitement. J'étais sous antidépresseur, sous anxiolytique. J'étais un petit peu. Enfin, on m'avait plus shooté qu'autre chose, on était en mode genre bon, bah ça va aller mieux, t'inquiète pas, et j'étais juste là, bah, en mode genre bon, bah voilà, je prenais pas mal d'anxiolytiques à cette époque, et enfin, juste ça résolvait aucun problème. J'étais là en mode genre bon, bah ok, je sens plus rien limite, mais je me sens pas mieux pour autant, quoi. Et j'ai vraiment essayé beaucoup de choses, c'est-à-dire que bah, je suis allé voir des psys, des sophrologues, des hypnothérapeutes, des acupuncteurs. J'ai un peu tout essayé et ouais, et c'était pas mal pour surtout gérer des crises de panique aussi, que c'est assez drôle parce que j'en ai fait beaucoup apparemment, mais c'est ma mère qui me le dit et mes proches, et mon cerveau a totalement effacé ça, j'en ai aucun souvenir. Et à chaque fois, enfin à chaque fois, la dernière fois plutôt, j'en parlais à ma mère, j'étais en mode genre, c'est trop, je me rappelle pas trop avoir fait des crises de panique, ça allait quand même plutôt bien, j'étais en mode genre, mais qu'est-ce que tu me racontes en fait? T'en faisais tous les 2 jours, quand t'essayais d'aller à l'école, tu te mettais à plus pouvoir respirer, t'avais l'impression que tes jambes suivaient plus, que tout allait s'effondrer, et je me rappelle pas du tout, enfin, c'est vraiment, mon cerveau a effacé ça de ma mémoire, c'est assez incroyable. Et donc, on est allé voir des psychologues pour gérer ça, etc. Enfin, je me suis même retrouvé interné en psychiatrie, alors que de base, c'était juste pour aller voir un psy et faire juste, pas des analyses, mais juste voir ce qui n'allait pas et rester quelques jours un petit peu dans un style d'hôpital de jour. Et en fait, ça s'est très mal passé, étant donné qu'on m'a juste hospitalisé en psychiatrie. Vraiment, j'étais entouré de personnes qui avaient vraiment des problèmes psychiatriques, alors que moi, je venais juste pour des crises de panique. Et j'en suis ressorti au bout d'une semaine avec mes parents qui s'y mettent des charges, et plus stressé, plus anxieux, plus flippé de la vie que ce que je n'étais en rentrant. Donc, c'était un petit peu compliqué, mais ouais, à force de voir des sophrologues et des choses comme ça, j'ai réussi un peu à me contrôler, à me. Bah, c'est ça, à me détendre par moi-même, à gérer mes crises de panique petit à petit. Ça a été vraiment sur du long terme. Ça a dû prendre plusieurs années, mais enfin, normal, c'est pas des choses qui se résolvent facilement en même temps. Mais je trouve que ouais, là, c'est, enfin, ça a rien à voir comparé à. Au début, je me rappelle même pas la dernière fois où j'ai réellement fait une crise de panique. Enfin, ça m'arrive de stresser, de paniquer, mais j'en suis pas de là à perdre tous mes moyens, quoi.
Et du coup, ça m'interroge, enfin, cette prise en charge où du coup tu as fini en hôpital psychiatrique, enfin, qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce qu'il y avait une forme de colère contre les professionnels de santé?
Alors il y avait totalement une colère envers ces médecins qui m'avaient dit tu rentres juste pour un bilan. C'était de base rester 2-3 jours et on me disait bon au vu de quand enfin je sais pas quand t'as cette quand il se passe ça, toi tu ressens ça, etc. Il faudrait faire ça. J'ai passé une semaine sans voir personne et juste on m'a laissé de côté et j'ai vu là-bas que c'était ça en fait pour tout le monde. Et ça m'avait vraiment choqué. Il y avait une autre fille qui était assez jeune et on était tous les deux un peu terrorisés par les gens qu'il y avait parce que c'était des gens qui avaient des vrais problèmes. Et enfin, à l'époque, t'es jeune, tu comprends pas trop ce qu'ils ont et les personnes sont pas vraies. Enfin, tu sentais que c'était des personnes qui étaient pas suivies et qui étaient vraiment, elles étaient limite mises dans des camisoles de force et j'étais en mode genre, mais. Où est-ce que je suis? Enfin, j'avais vraiment l'impression d'être dans un film. Et il y avait des moments où juste je m'enfermais dans la chambre et j'avais juste peur en fait. Mais ouais, j'en suis sorti révolté. Et heureusement que mes parents m'ont sorti de là parce que vraiment, quand j'en suis sorti, au bout d'une semaine, j'étais pire que comment j'y suis rentré, quoi. Donc je me dis, la prise en charge n'a pas du tout été faite et ils ont juste pas fait leur travail, quoi.
Pour revenir sur un sujet un petit peu plus léger, enfin quoique, je voulais un peu m'intéresser à comment tu as géré le post-bac. Est-ce qu'au niveau de l'orientation, ça a eu un impact? Est-ce que ça t'a empêché de faire certaines choses, de postuler à certains parcours, etc.?
Alors, pas vraiment. Disons que au moment du bac, je savais où je voulais aller. J'avais une école en tête et ce qui me plaisait bien, c'est que justement, en plus dans cette école, il n'y avait pas de cours magistraux. C'était par projet. T'avais pas à être dans une salle tout le temps fermée. T'avais pas de réels horaires non plus. Tu devais un peu te gérer par toi-même. C'était vraiment, c'était toi qui gérais. Et c'était quelque chose qui me correspondait très bien à ce moment, étant donné que j'avais quand même encore cette claustrophobie cette agoraphobie. Donc quand il y avait quand même beaucoup de monde, ça m'empêchait pas de stresser, mais t'avais quand même la possibilité de pas être enfermé dans une salle. Il y avait énormément de salles, t'allais un peu où tu voulais Et il y avait cette ambiance un peu début d'école d'ingé où tout le monde est en mode genre allez, c'est un peu la fête quoi. Donc bon, ça a quand même pas mal changé du lycée où c'était quelque chose de très scolaire et qui est passé du coup en études sup à quelque chose d'un peu plus auto-géré, je dirais, comme terme. Enfin,
Et du coup, justement, là, tu dis, c'était un peu la fête. Souvent, quand on pense à la vie étudiante, il y a quand même toute la question de la vie étudiante, donc les soirées, la vie associative, etc. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a eu un impact là-dessus? Enfin, je pense à l'alcool, par exemple.
alors, ça pour avoir un impact, ça a eu un impact. Je dirais qu'en fait, le réel impact, ça a été de quitter la bulle familiale. Parce que j'étais chez mes parents avant. Et au niveau. Quand je suis passé en études supérieures, je me suis retrouvé avec un appartement, une petite colocation. On était deux potes du lycée. Et. On s'est retrouvé là-bas, mais on s'est très vite retrouvé dans la vie associative, quoi. Et faut savoir que je me suis retrouvé dans une association de barman où j'ai, je dirais, pas mal consommé d'alcool, chose qui n'était pas très conseillée quand on a un traitement médicamenteux. Et enfin, je dirais que c'était un peu le moment où j'étais un peu dans le déni de j'ai quelque chose ou quoi que ce soit. Et vu que j'avais un traitement à ce moment-là. J'étais en mode genre, il n'y a pas de problème. En fait, j'avais presque oublié que j'avais des nausées, que j'avais des maux de ventre et autres. Et vraiment, j'étais juste en mode, je suis quelqu'un de normal, quoi. Mais bon, je suis quelqu'un de normal qui consomme beaucoup d'alcool. Mon corps a quand même pas trop assumé derrière parce que l'alcool était quand même pas hyper conseillé, je dirais, pour même dire déconseillé quand t'as un traitement médicamenteux. Comme ça, et ce qui fait que j'ai fait beaucoup de blackouts dans mes soirées. Je pense que c'est lié, mais j'en ai jamais parlé au médecin. Je lui disais pas, oh, je me suis mis une sacrée mine ce week-end, vous imaginez même pas quoi, mais je m'en rappelle pas donc, ouais, non, mais ouais, vraiment, je pense qu'au moins une fois par semaine, je me retrouvais sans me rappeler de mes soirées. Et vu que j'étais dans cet assaut de barman, ouais, je buvais vraiment beaucoup. Et chose que j'ai dû arrêter il y a à peu près 3 ans où j'avais vraiment une grosse consommation d'alcool. Et juste je me retrouvais à chaque fois que je buvais à avoir la nausée. Mais vraiment je buvais une bière, j'avais la nausée, etc. Et bon, je me suis dit que peut-être mon corps me passait un signe, peut-être qu'il fallait que j'arrête. Donc ouais, j'ai arrêté totalement de boire à ce moment-là. Mais ouais, je dirais qu'en fait, ouais, j'ai vraiment mis de côté ma maladie et j'ai fait, il n'y a pas de problème. Et j'ai profité que de la vie étudiante, justement, mais un peu trop. Ouais.
Et enfin, est-ce que tu aurais une œuvre au sens très large du terme, ça peut être littéraire, filmographique, musicale, peu importe, que tu aimerais recommander, soit parce que c'est quelque chose qui t'a aidé dans ton parcours avec la maladie de Crohn, ou juste simplement que tu aimes et que tu voudrais partager aux personnes qui écoutent?
Alors, j'ai pas réellement d'œuvre à proprement parler, mais il y a beaucoup de choses actuellement qui m'aident, qui m'ont aidé dans le passé. Il y avait, quand j'étais en dépression, la seule chose que je faisais quand j'étais chez moi, c'était lire des mangas. Et ça m'a un peu permis de. En fait, d'un côté, ça m'enfermait un peu dans une bulle, mais dans laquelle j'étais vraiment bien. Et j'arrivais à m'imaginer dans des mondes. Et c'était. Vraiment satisfaisant et j'ai commencé à en avoir un peu une passion. Et à cette époque, c'était vraiment quelque chose qui m'a, je dirais pas sauvé, mais ça m'a vraiment aidé parce que ça me permettait de voyager et juste de pas juste être chez moi pour rien faire et vraiment je pouvais imaginer d'autres choses et être un peu ça dans ma petite bulle. Et actuellement, je dirais que c'est plus les activités sportives en général qui me font me sentir bien. Parce que ça me permet de penser à autre chose. Ça va me permettre de juste, par exemple, aller prendre l'air, faire du longboard et me détendre. Ou faire de l'escalade et m'amuser, quoi. Donc, ouais, je dirais que c'est plus. C'était les mangas en général avant et maintenant, c'est les activités sportives, quoi.
Merci beaucoup Daniel pour avoir répondu à toutes mes questions. Chers auditeurs et auditrices, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. C'était En Différence, une émission consacrée au handicap invisible, diffusée sur Transistor et produite par Marie-Brune.